Et on commence ce journal des sciences avec l'élaboration aux Pays-Bas d'un prototype d'utérus artificiel.
L'Union européenne vient d'offrir près de 3 millions d'euros de subventions aux chercheurs de l'Université de technologie d'Eindhoven. Alors pour le moment, ce ne sont que les prémices de ce projet, mais ce que l'on peut en dire, c'est qu'il s'agit d'un utérus artificiel destiné aux grands prématurés, ceux qui naissent entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire à la limite de la viabilité. Contrairement aux couveuses classiques, cette machine va tenter de reproduire un environnement utérin liquide. Pendant 4 semaines, l'enfant devrait baigner dans un liquide amniotique de synthèse avant de retourner dans un incubateur traditionnel. Nadège Roche-Labarbe est biologiste et maître conférence à l'université de Caen et au service de néonatologie du CHU de Caen.
Le problème de la naissance prématurée, c'est que ces enfants naissent à un moment de leur développement où les poumons ne sont pas matures et du coup ne sont pas capables de capter l'oxygène de l'air aussi efficacement que les poumons d'un nouveau-né à terme. Et donc, l'intérêt du prototype qui est proposé dans ce projet, c'est qu'on met l'enfant dans un liquide, mais surtout, son sang est oxygéné par un système d'oxygénation par cannulation dans le cordon ombilical. Et le sang est oxygéné par une pompe à oxygène, un placenta artificiel, si vous voulez, qui va oxygéner le sang. Et le sang va entrer oxygéné par le cordon ombilical de l'enfant, repartir par le cordon également par une veine et passer à travers ce fameux placenta artificiel. En fait, le problème qui se passe au niveau de cette circulation extracorporelle et de ce placenta artificiel, c'est qu'il faut faire à un moment la connexion entre le cordon ombilical et le système mécanique avec des canules qui rentrent dans la veine et dans l'artère du cordon ombilical. Et à ce niveau-là, au niveau de la connexion entre ce qui est biologique et ce qui est mécanique, il peut y avoir un début, on va dire, de coagulation, des infections. Donc en fait, toute la difficulté, c'est cette interface entre le bébé et la partie mécanique. Et pour ces raisons-là, d'ailleurs, dans le projet, il est bien indiqué qu'il ne s'agit pas de faire une grossesse complète dans cet utérus artificiel, mais simplement de les laisser 3 à 4 semaines, le temps qu'ils grandissent un petit peu, donc passer de 24 semaines à 28 semaines de grossesse, puis qu'ils finissent leur croissance en couveuse, parce qu'on ne peut pas les laisser plus longtemps que ça. Pour l'instant, on ne sait pas le faire.
Et on passe au bref du jour. Le télescope spatial Hubble vient de photographier la comète interstellaire de Iborisov.
C'est l'image la plus précise de ce deuxième objet interstellaire qui traverse en ce moment notre système solaire. Ce que révèlent les analyses et les observations, c'est qu'elle est très différente de Oumuamua, le premier objet interstellaire détecté en 2017. Si Oumuamua ressemblait à une roche, de Iborisov ressemble à une comète active. Sa structure, sa composition chimique, toutes ses propriétés sont similaires aux comètes de notre système solaire, alors qu'elles proviendraient de la constellation de Céphée à plus de 13 années-lumière de la Terre.
Une entreprise canadienne de camouflage vient d'inventer un écran d'invisibilité capable de dissimuler des soldats ou des bâtiments.
La société HyperStills vient de publier ses brevets et une vidéo. On voit sur un bureau un écran clair et transparent qui laisse apparaître le reste de la pièce. Mais lorsque la caméra bouge, on voit que l'écran cachait en fait un objet. Cette cape d'invisibilité fonctionne grâce à des rangées de lentilles cylindriques sur une feuille plate qui sont capables de courber la lumière. La lumière est réfractée sur le matériau de façon à fusionner avec des parties de l'arrière-plan, ce qui crée ainsi une zone neutre derrière laquelle se cacher. Le procédé reste limité, mais selon la société, il pourrait s'améliorer facilement.
Et enfin, une étude parue dans PNAS fait un lien direct entre la déforestation et la propagation du paludisme.
Les chercheurs de l'université de Stanford ont recoupé 13 ans de données de télédétection par satellite de la forêt amazonienne brésilienne. La relation entre les deux n'est pas très claire, mais plus la déforestation a été intense, plus la région a été touchée par le paludisme, ce qui, par la suite, a entraîné une diminution du taux de déforestation. Cette étude est une nouvelle évidence que les liens entre santé humaine et environnement sont enchevêtrés.